Vous écoutez, on lit pour vous.
Les régions sont-elles vraiment plus racistes? Un texte de Jean-Louis Bordelot, paru le 18 avril 2024 dans Le Devoir. Michel Vatz-Laroussi a choisi, il y a 30 ans, de quitter sa France natale pour venir enseigner en Estrie et y étudier les relations interculturelles en région. Aujourd'hui, professeur émérite de l'Université de Sherbrooke à la retraite, elle continue de s'investir pour décortiquer l'intolérance et tricoter le vivre ensemble partout sur le territoire québécois. Entrevue. Comment s'assurer que les immigrants qui choisissent de s'établir en dehors des grands centres finissent par s'enraciner? Ils vont mieux s'intégrer dans les petites ou moyennes villes comparativement aux très petits villages. Il faut qu'il y ait un petit réseau ethnique ou culturel dans lequel ils peuvent un peu se retrouver. Il faut qu'ils aient la chance de parler leur langue d'origine de temps en temps ou qu'ils aient accès à un lieu de culte, si besoin, qui ne soit pas trop loin. Par exemple, il y a eu pas mal d'Argentins et de Brésiliens qui sont venus à Sherbrooke. Ils ont fonctionné en réseau et ça a été très efficace pour la régionalisation de l'immigration. Souvent, ils accueillaient les nouveaux chez eux, ils les aidaient à trouver un logement, etc. Ils n'étaient pas payés par le gouvernement pour faire ça. C'était dans leur propre réseau. Plusieurs de ces Brésiliens, à un moment donné, sont partis s'installer à Québec parce qu'ils avaient décroché des emplois dans les ministères. Par contre, ils avaient vécu plusieurs années ici et ils avaient vraiment créé un lien d'attachement. Ceux qui avaient envie de revenir, c'était ceux qui avaient réussi à acheter une maison. Quand on est immigrant, peut-être encore plus que quand on est natif, la maison, c'est un enracinement. Ça semble être un préjugé, mais y a-t-il plus de racisme en région? Il y a du racisme en région et il y en a à Montréal. Il y en a aussi à Québec. Il y en a dans tous les pays et dans tous les domaines. On pourrait dire que, peut-être, si on est moins exposé en région à la diversité, aux minorités visibles dans la vie quotidienne, il va y avoir plus de micro-agressions que dans les grandes villes, où on est plus familier avec les différences. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans les grandes villes, loin de là. Toutes ces micro-agressions sont pénibles à vivre par les gens des communautés. Ils ne réagissent pas tout de suite parce que, bon, ils ne peuvent pas réagir tout le temps. Mais ils peuvent se faire demander sans arrêt d'où ils viennent et parfois aussi se faire dire des choses plus graves comme « Retourne chez toi si t'es pas content ». Ce n'est pas un racisme ouvert où on va dire « Non, lui, il est africain, on n'en veut pas ». Mais en regardant le nom, on va scruter son CV sous un autre œil, par exemple. Comment faire pour que ce soit gagnant-gagnant à la fois pour les régions et pour les immigrants? Les immigrants ont des projets de vie. Même les réfugiés, ils ont un projet en arrivant. Ils veulent mener une meilleure vie pour eux, pour leurs enfants, etc. On ne peut pas supposer qu'ils vont s'intégrer et puis participer à notre projet. Non. La réponse, c'est comment on peut avoir des projets communs en tenant compte des projets des uns et des autres. L'information aussi, c'est très important. Il faut que circule la bonne information pour ne pas donner une vision idyllique de la région. On a tendance à donner un portrait pour des touristes. La qualité de vie, ça ne se mange pas en salade. Si les gens arrivent et qu'ils n'arrivent pas à trouver leur place, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan social, même s'il y a une belle qualité de vie, ils n'en profiteront pas. Il faut donner une vision la plus réaliste possible de la région. Les travailleurs temporaires forment la nouvelle grande cohorte d'immigrants au Québec. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour eux et pour la société d'accueil? Les travailleurs temporaires ont des besoins en matière d'accueil et d'intégration. Ils ne sont pas juste là pour travailler. Ils vivent ici. Si on veut que ça se passe bien et que dans la population locale, ça se passe bien aussi, il faut qu'on les considère comme les autres, qu'ils aient les mêmes droits au travers des différents programmes, que ce soit la francisation pour eux ou leurs conjoints, que ce soit l'accès à des organismes, à de l'aide, à du soutien, etc. C'est vraiment majeur. C'était « Les régions sont-elles vraiment plus racistes ?» un texte de Jean-Louis Bordelot, paru le 18 avril 2024 dans Le Devoir.
Pour ou contre les conversations téléphoniques, un texte d'Olivia Lévy, paru le 7 avril 2024 dans la presse. Un appel à témoigner sur les réseaux sociaux a déchaîné les passions. Notre rapport avec les appels téléphoniques n'est pas uniquement une question de génération, même si on constate que les personnes plus âgées préfèrent parler au téléphone contrairement aux plus jeunes. C'est aussi une question de temps et d'efficacité dans la communication. Pour l'amour du téléphone. Pascal Huberti, 55 ans, adore parler au téléphone. C'est un vrai plaisir, mais je n'ose plus appeler mes amis. C'est fou, on a perdu la spontanéité, ça n'existe plus. Quel dommage qu'on en soit rendu là. On ne sonne plus chez les gens non plus, il faut tout prévoir et demander la permission avant d'appeler. Vraiment? On en est là? C'est d'une tristesse. Mes souvenirs d'adolescence sont liés à de grandes conversations au téléphone pendant 2 heures. J'adorais ça. Laetitia Jallet, 39 ans, parle moins au téléphone, mais ça lui manque. J'aime entendre le son de la voix des gens, discuter, rire. Les gens sont surpris quand leur téléphone sonne, ça leur fait presque peur. Un numéro que je ne connais pas? Oh, je ne répondrai pas. Mais si jamais c'est important? On ne peut plus joindre personne et ça me tape sur les nerfs car plus personne ne répond à son téléphone, estime Dominique Bertrand. Ma fille, 34 ans, je l'appelle, elle ne me répond pas et ça me rend folle. Elle reconnaît mon numéro, c'est écrit « Maman » sur son écran quand j'appelle. Elle se souvient de sa mère et de sa tante qui passaient des heures au téléphone. Au téléphone, tu peux dire tellement de choses. Je parle encore au téléphone avec mes amis et j'aime ça. Et c'est triste de savoir qu'on ne se parle plus parce que la réalité, c'est ça, c'est qu'on ne se parle plus du tout. C'est dommage. Car le son d'une voix, c'est chaleureux. L'intrusion du téléphone. Un appel est par essence intrusif. On est toujours en train de faire quelque chose quand on reçoit un appel. Si on fixe un rendez-vous, alors on peut se parler au téléphone. Mais sinon, je préfère le texto, car on peut y répondre au moment où on est disponible, dit Bertrand Lucas, 44 ans, père de 3 enfants. La sonnerie du téléphone donne de l'anxiété à l'animatrice Émilie Fournier. Elle préfère recevoir un texto. « Es-tu libre pour un appel ?» Véronique, mère de 2 adolescents, pense que le téléphone est angoissant car elle estime qu'elle n'a pas le temps de parler. « C'est intrusif. On a d'autres moyens de communication aujourd'hui. Ce n'est jamais le bon moment et je manque de temps pour le téléphone. » On a un rythme de vie rapide. J'ai des réunions, des Zooms, des courriels, des textos. Je communique avec mes enfants par texto et FaceTime. Je ne réponds jamais au téléphone, sauf si ce sont mes enfants ou ma conjointe, écrit le spécialiste des nouvelles technologies, Bruno Guglielminetti. Un avis que partagent beaucoup de gens à qui nous avons parlé. Si ce n'est pas un numéro du carnet d'adresse qui s'affiche, on ne répond pas au téléphone. Un outil de communication utile. Jeanne Brabant, 23 ans, estime que parmi toutes les fonctions de son téléphone intelligent, parler au moyen des applications FaceTime correspond à 8% de son usage. Je communique avec mes amis surtout par texto ou via des messages vocaux par Messenger, Instagram, FaceTime. Les appels, ce sera sur FaceTime, par exemple. Souvent, avec mes amis, on commence par se texter. Si on doit écrire plusieurs lignes et que l'on considère que c'est trop long, on va envoyer un message vocal. Et si au bout de 5 messages vocaux, ce n'est pas suffisant, on s'appelle via une application. Stéphanie Beauregard constate qu'elle parle beaucoup moins au téléphone, mais qu'il reste un outil important. Les appels d'hôpitaux? Si tu n'y réponds pas, c'est impossible après de les joindre. Alors je réponds au téléphone. Il y a ceux qui dictent la façon dont tu dois communiquer avec eux. Ils te disent « Je ne réponds pas au téléphone, ni sur Messenger, ni sur LinkedIn, alors écris-moi des textos. » Et on doit s'adapter et répondre de la même façon. Je pense que le téléphone est désormais réservé à la famille et aux bons amis. C'était « Pour ou contre les conversations téléphoniques », un texte d'Olivia Lévy, paru le 7 avril 2024 dans La Presse.
Loin de la ville, loin du cœur. Un texte de Paul Journet, paru le 3 avril 2024 dans La Presse. Il existerait maintenant deux Québec, entend-on parfois, les régions et Montréal, avec les autres centres urbains. Même si le clivage est réducteur, il comporte une bonne part de vérité. Ce phénomène s'observe aussi dans le reste du Canada et dans d'autres pays. Et il explique le relativement faible intérêt accordé à la détresse des agriculteurs. À l'Assemblée nationale, les partis s'y intéressent, mais le débat n'a pas un écho national, du moins pas à la hauteur de son importance. Des producteurs agricoles craignent le pire. Les raisons. Explosion du coût des intrants, qui ralentit toutefois. Concurrence déloyale à cause du libre-échange. Événements météo extrêmes plus fréquents avec le dérèglement climatique, programmes d'aide jugés inadéquats, investissements exigés par les nouvelles normes pour l'environnement et le bien-être animal et taux d'intérêt qui en alourdissent les charges et enfin, hausse du prix des terres et des taxes qui viennent avec. Dans la dernière décennie, le revenu net annuel moyen du secteur agricole québécois après amortissement se situait entre 1 et 1,2 milliards. Selon la plus récente estimation de Statistique Canada, il fondra à 86 millions cette année. Certes, c'est une prévision à interpréter avec prudence, mais si elle s'avère, ce serait le plus faible chiffre depuis l'ère Duplessis, d'après l'Union des producteurs agricoles, UPA. Avant d'aller dans le détail, un commentaire général. Il n'est pas normal que ceux qui nourrissent la population peinent à subvenir à leurs besoins, surtout dans une société prospère comme la nôtre. Politiquement, les demandes sont contradictoires. D'une part, on veut minimiser la souffrance animale et l'empreinte écologique. De l'autre, à l'épicerie, le prix reste le premier critère, et on veut garder le même menu, peu importe la saison. Sans évidemment vouloir l'autarcie alimentaire, on souhaite renforcer notre autonomie. Mais on consacre la majorité de nos terres aux grains qui nourrit des animaux pour des filières comme le porc qui sont surtout destinées à l'exportation. On ne peut pas accomplir tout cela en même temps. Comme le démontrent les manifestations de la France à l'Inde, la crise frappe un peu partout sous différentes formes. Le libre commerce profite à nos producteurs qui exportent le sirop d'érable, le grain, le porc et le veau. Et les consommateurs en bénéficient à l'épicerie. Mais il fait aussi mal. Le problème, le combat se fait à armes inégales parce que les normes varient selon les États. Par exemple, au Mexique, les travailleurs sont payés environ 5 fois moins que chez nous. Et aux États-Unis, le 1/5 des fermes laitières utilise la somatotropine, une hormone de croissance interdite ici. Que faire? Divers programmes d'aide existent pour les années difficiles. Pour certains d'entre eux, il n'y a pas de frais. Pour d'autres, comme l'assurance récolte, le producteur en finance 40%. Or, plusieurs producteurs maraîchers ne souscrivent plus à l'assurance récolte qui est censé les protéger lors des années où la météo est mauvaise. Québec s'est engagé à la revoir en profondeur pour chaque culture. De nouveaux programmes sont aussi réclamés. Depuis 10 ans, la dette des producteurs est passée de 12,2 à 27,7 milliards. La hausse des taux d'intérêt fait donc mal. L'UPA voudrait une aide d'urgence jusqu'à la baisse des taux. Le gouvernement caquiste attend de recevoir une demande officielle précise. Il est hésitant. Il souhaite documenter les besoins et éviter de créer des iniquités. La financière agricole peut déjà intervenir pour refinancer la dette des fermes en péril, dit-on à Québec. Le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, négocie avec le fédéral pour accorder une aide spéciale à des producteurs maraîchers ainsi qu'à ceux de foin en Abitibi à la suite de la désastreuse année 2023. Enfin, Québec a 2 autres initiatives, un programme temporaire en vigueur pour rembourser jusqu'à 200 000 $ sur les intérêts de la marge de crédit durant 3 ans, ainsi que des mesures à venir pour alléger la paperasse et d'autres fardeaux administratifs. Et à plus long terme, une étude a été commandée à la firme Raymond Chabot Grant Thornton afin de savoir comment positionner notre industrie porcine dans le marché mondial. Soutenons-nous assez notre agriculture? Au Québec, 6 % des revenus agricoles proviennent des transferts gouvernementaux, soit plus que dans le reste du Canada, 4 % mais moins qu'aux États-Unis, 8 %. À noter que ce pourcentage chez notre voisin était dopé par l'aide temporaire offerte par Donald Trump durant la pandémie et le conflit commercial avec la Chine. En incluant l'effet de la gestion de l'offre, on arrive à un résultat un peu différent. Le Québec dépasse de peu la moyenne de l'OCDE, 18 % contre 17,4 % pour la période 2017-2021. Reste que la tendance ne va pas dans le bon sens avec la compétition face à des pays qui protègent moins leurs travailleurs, leurs écosystèmes et leurs bêtes. Vrai. Le plan d'agriculture durable s'est accompagné d'une aide de 122 millions depuis 2022. Cette approche de la carotte contraste avec le bâton imposé en France. Mais pour certains, ça ne suffit pas. Depuis l'élection de la coalition Avenir Québec en 2018, les dépenses en agriculture ont augmenté plus vite que celles des autres missions de l'État. Il y a aussi eu un seul ministre, une stabilité bénéfique, après le jeu de chaises musicales sous les précédents gouvernements. Mais la période de prospérité économique en début de mandat masquait des problèmes qui ne disparaîtront pas avec la baisse des taux d'intérêt. Et au-delà des dollars, il faudra réfléchir à ce qu'on attend de l'agriculture. Veut-on encore qu'elle participe à l'occupation du territoire, à notre autonomie alimentaire et à notre patrimoine? Voilà des questions qui devraient concerner tous ceux qui votent et mangent, peu importe leur code postal. C'était « Loin de la ville, loin du cœur », un texte de Paul Journet paru le 3 avril 2024 dans la presse.
Comment parler à la génération Z au bureau? Un texte de Daniel Abril du Washington Post paru le 16 avril 2024 dans la presse. Vos jeunes collègues en sont peut-être à leur premier vrai emploi, mais ils savent très bien quel type de rétroaction ils espèrent. Opportune, collaborative, empathique et équilibrée. Si vous leur parlez juste quand ils ont fait une erreur, si vous attendez des semaines avant de leur en parler, et si vous les corrigez sans discuter, ils risquent de partir vers un emploi plus proche de leurs attentes. Les gens de la génération Z, nés entre 1997 et 2012, bousculent les normes de vie au travail, et cela inclut la façon de leur parler. Selon les experts en main-d'œuvre multigénérationnelle, il peut y avoir un choc culturel quand les travailleurs qui se sont débrouillés sans grande attention en début de carrière corrigent les jeunes sur leur travail. Sans le vouloir, ils peuvent les décourager ou se les aliéner. La proportion des aides dans la main-d'œuvre augmente et devrait dépasser les 32 % d'ici 2032, selon les statistiques du gouvernement américain, et ils demandent aux employeurs de les écouter. Insatisfait. Le sondeur Gallup leur a demandé s'ils se sentent appréciés au travail, s'ils peuvent apprendre et se développer, s'ils peuvent discuter de leurs progrès avec leurs supérieurs et si leur opinion compte. Cette génération est la plus insatisfaite à ces chapitres. Or, souvent, les travailleurs insatisfaits s'en vont. Plutôt que de me dire « Hey, ça c'est mal fait », dites-moi plutôt « J'aimerais avoir une conversation sur ton processus de réflexion et sur ce que tu as mal fait », explique Yatri Patel. Aidez-moi à comprendre, dit cet ingénieur en logiciel de 24 ans à la Tennessee Valley Authority, l'agence de l'énergie où elle a obtenu son premier emploi à temps plein. Les aides sont la première génération Internet dès l'enfance. Ils sont habitués à avoir un accès instantané à l'information, notent les experts. S'ils ne comprennent pas ou ne savent pas quelque chose, ils cherchent la réponse en ligne. Ils transposent ces attentes au travail, où l'information n'est pas aussi facile d'accès, explique Megan Gerhardt, professeure à l'Université de Miami. Google, Siri et Alexa leur ont donné des réponses à toutes leurs questions. Au travail, l'information sur le pourquoi et le comment des choses est moins claire et pas toujours accessible ni instantanée, souligne Megan Gerhardt. À ce sujet, les aides s'attendent à ce que la rétroaction soit immédiate. Même quand ils regardent la télé, ils ont l'habitude de l'accès à la demande, tout de suite, explique Jake Aguas, expert générationnel et professeur de ressources humaines à l'Université Biola. Les générations précédentes n'ont pas grandi avec la diffusion en continu. Il fallait attendre l'heure de diffusion. Ça faisait partie du processus. Madame Patel sait qu'il faut de la rétroaction pour faire du bon travail. Mais si elle ne vient pas de la bonne façon, la critique peut nuire. Des exemples? Des gestionnaires qui attendent trop avant de la critiquer, empêchant ainsi l'amélioration rapide de sa performance. Ou qui ne font que critiquer ce qu'elle fait mal sans expliquer comment mieux faire. Ou qui lui refusent la possibilité de s'expliquer ou de participer à la recherche de solutions. Des patrons empathiques. Les aides interviewées par le Washington Post disent ne pas considérer le travail comme leurs aînés, qui, selon eux, ont sacrifié temps, bien-être et vie familiale à des emplois qui, souvent, ne les valorisaient pas en tant que personnes. Ils veulent être eux-mêmes au travail, sentir que leur voix compte et sentir que leurs supérieurs sont empathiques et investis dans des relations avec eux. Ils veulent aussi qu'on leur explique pourquoi les choses sont faites de telle ou telle manière. « Chaque interaction est importante », déclare Sarah Warren, 26 ans, directrice et cofondatrice d'un OBNL en santé mentale pour les travailleurs de la santé établi à Los Angeles. Vous avez affaire à des êtres humains. La vulnérabilité et la compassion peuvent prévenir l'épuisement professionnel. Madame Warren, qui a été infirmière, raconte avoir déjà eu une supérieure qui la prenait constamment à part pour la critiquer, qui était parfois condescendante, la comparant à sa fille et lui disant qu'elle s'habillait trop serrée. Cela la rendait malheureuse. Elle aurait préféré pouvoir discuter des façons de faire autrement plutôt qu'on lui fasse honte de ses erreurs, dit-elle. Le contexte est essentiel. Une critique brève, sans explication, peut être source d'anxiété, disent les membres de la génération Z. Les jeunes travailleurs peuvent faire toutes sortes de déductions erronées et douter d'eux-mêmes, alors que leurs supérieurs ne pensaient rien de tel. Chad Brown, coordinateur de la sécurité chez 3M, dit qu'il devient nerveux quand il voit apparaître des réunions inattendues ou des courriels courts et vagues de ses patrons. « Dès que je reçois un texto qui dit « Il faut que je te parle », je me dis tout de suite « Oh non, c'est grave ». Ça me cause de l'anxiété et ma tension artérielle grimpe, évoque Chad Brown. Se faire critiquer sévèrement le vendredi en fin de journée serait un cauchemar, car il y penserait tout le week-end et aurait du mal à dormir, dit Chad Brown, selon qui le tact est primordial dans une critique. Elle doit viser le problème, pas la personne. Les jeunes veulent aussi avoir leur mot à dire dans la résolution des problèmes, pas seulement se faire dire quoi faire. Cette approche aide Angel Davis, une New-Yorkaise de 22 ans, à ne pas répéter les erreurs. Selon cette assistante en médias sociaux pour l'entreprise de technologie éducative Quizlet, une des pires choses qu'un patron puisse faire est de critiquer une action, puis de régler le problème sans en parler. Ce serait déroutant et démotivant. Si vous refaites mon travail, pourquoi l'ai-je fait? Et si vous ne pouvez pas m'expliquer, je ne comprendrai jamais tout à fait. Connaître la personnalité et le point de vue de leurs supérieurs et sentir qu'ils s'intéressent à eux personnellement les aide à cerner l'objet de ces critiques, disent les jeunes. Des contacts réguliers, même sans lien avec le travail, et des questions sur leurs ressentis aident à construire la relation. Joël Vélez, 24 ans, spécialiste du marketing numérique près de Milwaukee, dit apprécier que les gestionnaires aient une approche conseillée, créant ainsi une culture d'ouverture et d'empathie. Même une phrase aussi simple que « n'hésite pas à poser des questions » aide à calmer son anxiété, a déclaré Joël Vélez. C'est un bon moyen de rappeler qu'on est dans un environnement d'apprentissage. Les jeunes travailleurs affirment que les générations plus âgées ont tort de les qualifier de paresseux ou de mous. Ils demandent juste qu'on ramène de l'humanité au travail. Selon Megan Gerhardt, l'experte en main-d'œuvre générationnelle, tous les responsables devraient se poser la question suivante. Quel est mon objectif en critiquant? Et mon approche fonctionne-t-elle? Les entreprises ne sont pas obligées de changer. Mais les jeunes travailleurs choisiront les environnements où ils se sentent à l'aise, disent les experts. C'était « Comment parler à la génération Z au bureau? » Un texte de Daniel Abril du Washington Post, paru le 16 avril 2024 dans La Presse.